Claude l'a mentionné, nous continuons dans le livre de l'Exode. Et nous avons vu jusqu'à maintenant la délivrance du peuple de Dieu qui a déployé sa puissance. Il a mobilisé les éléments de la création pour sortir son peuple de l'esclavage. Nous lirons les versets 1 à 10 du chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse. Il dit, « Consacre-moi tout premier-né, tant des hommes que des bêtes. Tout est né chez les Israélites, il m'appartient. » Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mangera pas de pain levé. Vous sortez aujourd'hui au mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Éviens, des Yébousiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays découlant de lait et de miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra pas chez toi de pain levé, et l'on ne verra pas chez toi de levain dans tout ton territoire. Tu feras en ce jour un récit à ton fils en disant, « C'est à cause de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un rappel entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est d'une main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette prescription au temps fixé d'année en année. » Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Prions. Seigneur, nous voulons te louer pour cette relation que tu établis avec nous. Comme nous l'avons vu, tu nous as réconciliés avec toi. C'est toi qui as pris l'initiative et qui accomplit tout dans le salut. Et dans ce salut, Seigneur, il y a un élément qui est important, c'est la sanctification. C'est-à-dire que tu ne nous laisses pas sur nos propres voies et dans nos pensées. Tu nous sanctifies et c'est par ta parole que tu le fais. Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes la compréhension de ta parole, de tes pensées, et que nous puissions chercher à mettre en pratique, à vivre pour toi ce que tu nous enseignes. Amen. Alors, quand on lit des textes comme celui-ci, on voit des pratiques et on se demande, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'était là sur l'Ancienne Alliance et c'est tombé sans qu'il y ait une signification ou un enseignement? Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est intéressant parce qu'on peut se demander pourquoi est-ce que le Seigneur donne des consignes à ce moment-ci? Il me semble que l'urgence, c'est de sortir le plus vite possible du pays. C'est-à-dire, on s'en va, puis on réglera ça après. Hein? Et Dieu donne ses consignes à ce moment-ci. Et c'est là que Dieu ordonne la célébration de la Pâque et la fête des pains sans levain, qui est la même chose, et la consécration des premiers-nés. Alors, qu'est-ce que la consécration? Eh bien, le texte original est en hébreu, je trouve que la racine latine est très intéressante. Elle explique bien. Consacrer, c'est rendre saint avec. Le préfixe con, ou en latin cum, c'est avec. Donc, c'est rendre saint avec. Et c'est voué totalement à quelque chose. Si je dis, ce soir, chérie, je te consacre ma soirée et que finalement, je vais écouter la partie de hockey qui commence à 8 heures. Finalement, tu vas dire, il m'a donné du temps avant 8 heures, mais finalement, il n'a pas consacré la soirée. Consacrer, c'est voué totalement, pas partiellement. Dans les dernières prédications sur Exode, nous avions vu les consignes de la Pâque et l'importance de garder la pureté du peuple de Dieu en n'ouvrant pas la Pâque aux incirconcis, aux étrangers, aux mercenaires. me semble que c'est à la fin du chapitre 12 qu'on a vu ça. Il fallait également, donc, la pureté des participants, mais la pureté de ce qui était utilisé aussi, parce que ça va ensemble. Il fallait choisir un agneau d'au plus un an, un mâle sans défaut, le faire cuire entièrement, et donc pas à demi-cuit, un signe de consécration totale, et le manger complètement dans la maison. Si jamais il en restait, il fallait brûler entièrement ce qui restait. Donc, la pureté de la Pâque oblige la pureté du peuple de Dieu. Donc, on n'ouvre pas ça à n'importe qui. Le texte nous montre que la consécration a pour but de se dissocier du passé. Au verset 3, Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera pas de pain levé. » Rappelez-vous ce que vous étiez, votre ancienne vie, votre ancienne identité, votre ancien état, esclave. Rappelez-vous cela. Et rappelez-vous que c'est par la main puissante de Dieu que vous êtes sortis, pas par vous-même. On ne sort pas de l'esclavage par nous-mêmes. Et on doit se rappeler comment nous étions avant notre conversion. Nous servions qui? Nous pensions comment? Je me délecte présentement sur Internet. Il y a un gars qui a fait une maîtrise en philosophie. Et évidemment, il prêchait l'athéisme. Souvent, c'est presque toujours ça qu'il enseigne. Jusqu'au jour où il s'est converti. Et il parle de la manière de penser du non-croyant. C'est très intéressant. Comment nous pensions? Comment nous étions égarés? Les brebis errantes, c'est pas juste des brebis qui manquent une carte. Ils ne sont pas capables de s'orienter. C'était notre condition. Sans intelligence. Verdict sévère et tout à fait approprié. Nous étions sans intelligence. Et présentement, par nous-mêmes, nous sommes encore sans intelligence. C'est Dieu qui renouvelle l'intelligence. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude. Souvenez-vous de votre esclavage. Et c'est la même puissance qui fait dire à Paul, « Je n'ai pas honte de l'Évangile. » C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Le salut, c'est toujours par la puissance de Dieu. La délivrance, c'est par la puissance de Dieu. L'homme est incapable. Et le verset 3 d'Exode 13 continue. « On ne mangera pas de pain levé. » Nous avions vu que le levain était une image du péché. Paul dit dans 1 Corinthiens 5, 7, « Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Donc, il prend vraiment l'image du levain lors de la Pâque. C'est une interprétation d'Exode. Et Moïse dit, « Souvenez-vous de votre délivrance, on ne mangera pas de levain. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Celui qui est délivré doit quitter le péché, doit rejeter le péché. Il ne peut pas dire, merci Seigneur, tu m'as pardonné. Maintenant, librement, je peux faire la vie qui m'intéresse. C'est pas ça. Nous avions vu aussi que la délivrance, si elle regarde en arrière, l'Éternel nous a fait sortir du pays d'Égypte, elle regarde aussi en avant, et on voit ça au verset 5. « Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoriens, des Éviens, des Yébousiens, qu'il a juré à ta part de te donner, pays découlant de lait et de miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. » La délivrance vise un avenir prometteur. Donc, on a parlé de la nouvelle création, parce que nous serons entrés dans la nouvelle création, nous serons délivrés totalement de la présence du péché. L'avenir du croyant ne s'arrête pas au désert. Ça, c'est l'avenir de l'incroyant s'arrête au désert, la mort. L'avenir du croyant, c'est Canaan, c'est la terre promise. Et il y a juste ce regard-là vers la terre promise qui fait qu'on persévère. Dans l'Exode, il y en a qui sont sortis d'Égypte, mais qui sont morts en plein désert. Et on avait vu qu'il ne fallait pas faire l'équation que, puisque Dieu délivre et qu'il y en a qui périssent, donc c'est possible qu'il y ait des chrétiens qui perdent leur salut. L'ombre pointe vers la réalité, mais l'ombre n'est pas la réalité. Et c'est justement pour cela que Dieu établit une nouvelle alliance, parce que la première n'effaçait pas les péchés. On voit ça dans Jérémie 31, versets 31 à 34. La nouvelle alliance, c'est la seule qui assure le pardon des péchés. Sous la nouvelle alliance, celui que le Seigneur délivre appartient immédiatement à la terre promise. Bon, il y a comme deux aspects. On est encore dans un désert, c'est-à-dire on n'est pas entièrement entré dans la terre promise, mais c'est comme si notre âme ou notre tête est déjà là, en terre promise. Hein? Spirituellement, nous sommes déjà ressuscités avec Christ, Colossiens 3. Et c'est ça qui est notre encouragement. Nous avons déjà un pied dans la nouvelle création. On ne peut pas mourir au désert parce que nous déjà, et puis là, nous sommes en Jésus-Christ et spirituellement, nous sommes déjà dans la nouvelle création. Et c'est là notre motivation, notre encouragement et notre assurance. Romains 8, 18, Paul dit, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et dans Matthieu 5, 11, Jésus dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous. » Quand est-ce qu'on a fait un party pour célébrer des souffrances? On ne fait pas ça souvent. Hein? Mais le chrétien, c'est ce que Jésus demande. Il dit, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » La chaleur du désert, le manque de, ou l'absence de ressources au désert n'a aucun sens sans Canaan, sans cette marche vers la terre promise et cette garantie de la terre promise. Ça n'a aucun sens de sacrifier notre vie actuelle, de la consacrer à un Dieu qui nous laisserait tomber. Sans la résurrection, eh bien, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et le pays qui est devant nous, sous l'Ancienne Alliance, il est décrit, sous des références terrestres, pays découlant de lait et de miel. Le lait et le miel, dans le Proche-Orient ancien, ça faisait partie des mets royaux. On trouvait ça à la table du roi. On ne trouvait pas ça chez McDo ou ailleurs. C'était uniquement à la table du roi. Et seuls les invités à la table du roi avaient droit à ces mets-là. Le verset 5 nous donne une autre information. Quand le peuple a entendu ce que Moïse lui rapportait, la terre promise était encore la possession des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Éviens, des Jébusiens. C'était des nations ennemies, et Dieu a dit, vous allez devoir déposséder le pays, donc les Cananéens de leur pays. Et pour que le peuple puisse entrer en Canaan et jouir du pays, il devait déposséder ces populations-là. Et Dieu s'engage à le faire. Il dit dans Exode 34, verset 24, « Je déposséderai les nations devant toi et j'élargirai tes frontières. » Donc, Dieu demande au peuple de conquérir, mais c'est Dieu qui le fait finalement. Et on voit ça dans les guerres qui ont lieu en Canaan. Sous la Nouvelle Alliance, est-ce qu'on a à conquérir le pays? Absolument pas. Il y a des courants de pensée dans le christianisme qui disent qu'il faut conquérir, et on cite Josué, « Tout lieu que foulera ton pied, je te le donnerai », etc. Ces textes-là annonçaient la victoire du Christ. Il a pris possession, je dirais légalement, il a dépossédé Satan. Dans l'Apocalypse, c'est marqué, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Dans Matthieu 12, puisque c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Nous entrons dans le royaume et nous jouissons du royaume. Il n'y a personne l'ennemi n'est pas dans le royaume de Dieu et on n'a pas à le déposséder. Verset 6 dit, « Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Alors, le menu n'est pas très varié. Hein? Pendant 7 jours, vous mangez du pain sans levain. Quand on est allé en République dominicaine, pendant 7 jours, on a mangé le même buffet. Au moins, c'est un buffet. Alors, on peut choisir. Mais là, pendant 7 jours, c'est du pain sans levain. Et là, la fête, en l'honneur de l'Éternel, on s'attendrait à un autre menu. Encore du pain sans levain. Bon, ça ne signifie pas qu'il mangeait juste ça, mais le pain qu'il mangeait devait être sans levain. Et le texte ne vise pas un enseignement culinaire. Puisque le pain représente le péché, on l'a vu. La vraie fête, ce que ça signifie, c'est que la vraie fête, la vraie célébration, se fait dans le rejet du péché. Il n'y a aucune jouissance de la vie, il n'y a aucune joie dans la pratique du péché. Autrement dit, le péché est incompatible avec la joie que Dieu donne. On l'expérimente. Claude a cité un auteur il y a une semaine ou deux qui disait que le péché, finalement, ne rend jamais la marchandise. Il promet, mais il ne donne jamais ce qu'il promet. Et la punition est toujours pire que ce que le péché annonçait, et le plaisir est toujours moindre. Puis finalement, il n'y a aucune joie. On se retrouve après, puis on dit, bon, j'ai encore déconné. Il n'y a aucune joie. La vraie joie, la vraie célébration avec Dieu, c'est dans le rejet, ça se fait dans le rejet du péché. C'est incompatible. Une vie de péché et une vie avec Dieu, c'est incompatible. Et la Pâque, donc la célébration avec l'agneau pascal, qui représente le Christ, n'a aucun sens en dehors de la fête des pains sans levain. On ne peut pas dire, moi je veux manger l'agneau, mais je veux manger du pain levé. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, je veux m'associer au Christ, je veux être uni au Christ, mais faire ce que je veux. Je veux pécher. Incompatible. Dieu dit non. Dieu ne reçoit pas ce qu'on fait si c'est ça. Le vrai croyant, il n'a pas une vie parfaite, mais quand il pêche, il revient. Car Dieu relève ses serviteurs. Mais celui qui pratique, qui veut demeurer dans le péché, qui se dit chrétien, finalement, devrait s'interroger. Est-ce que vraiment il s'est repenti? Est-ce que vraiment il voit en Jésus-Christ celui qui le sauve, pas juste de l'enfer, mais de la puissance du péché? Est-ce qu'il a été délivré de la puissance du péché? Et si c'est notre cas, il devrait s'interroger. Et, comme on l'a vu, Dieu accueille le pécheur repentant. On continue. Le verset 8 nous donne une consigne d'instruire nos enfants. Tu feras en ce jour un récit à ton fils en disant, c'est à cause de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Vous avez peut-être déjà entendu des chrétiens dire, moi, je n'enseigne pas mes enfants dans la voie de l'Évangile parce que je veux que mon enfant prenne une décision libre. Je ne veux pas les influencer. D'abord, si ces parents-là étaient conséquents, ils ne poseraient aucun geste. Parce qu'il n'y a pas juste les enseignements qui influencent les enfants. Il y a surtout nos actions. Alors, on ne veut pas les influencer pour se retirer complètement de leur vie. Ensuite, ne pas chercher à influencer nos enfants. Influencer, ça ne veut pas dire penser à leur place. Influencer, c'est de leur montrer le bien fondé de la vie chrétienne, du Christ. Et ne pas chercher à les influencer, c'est de laisser le monde être seul à les influencer. De laisser les non-croyants, parce qu'eux vont faire leur travail. De laisser aux non-croyants, aux médias et à tout. Souvent, on parle d'un média, on parle de médiocrité. Hein? De laisser le monde influencer nos enfants. Et Dieu dit, tu enseigneras à tes enfants. Tu enseigneras à tes enfants. C'est un devoir. Et ce qui ressort du verset 8, c'est que l'enseignement ne consiste pas seulement à rapporter un fait historique, mais une réalité dont le parent s'est approprié. Autrement dit, le parent ne doit pas rapporter uniquement le récit de l'Exode. Mon fils, en telle année, Dieu a délivré son peuple. Mais il doit être conscient que c'est aussi son exode à lui. C'est à cause de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Et cette consigne n'était pas valable uniquement pour ceux qui ont vu de leurs yeux cette délivrance-là. La consigne demeurait ensuite. Et c'est vrai que les autres générations pouvaient dire exactement la même chose. « Je suis sorti d'Égypte. » Comme au Québec, on peut dire, « Nous avons perdu la guerre contre les Anglais. » On peut dire ça au Québec, même si on n'était pas là. Du fait que c'est nos ancêtres, on peut dire ça. Toutes ces consignes sont reliées à la célébration de la Pâque, c'est-à-dire au fait de vouloir s'unir au Christ, ou d'exprimer notre unité à l'agneau. Notre union, plutôt. Au verset 9, il dit, « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un rappel entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est d'une main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. » Donc, il y a un lien entre la délivrance et la loi de Dieu. Quand le Seigneur délivre, il fait entrer dans une nouvelle vie, et dans cette optique, il instruit son peuple, il donne sa loi. Encore une fois, le Seigneur ne délivre pas son peuple pour dire, « Maintenant, je t'ai sorti de la mauvaise situation où tu te trouvais, et voilà, choisis-toi une route. Je te délivre et je te donne ma loi. » Afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Il faut que ça soit proclamé. Il faut que ça soit la loi de l'Éternel qui sorte de notre bouche quand on prend une décision, quand on instruit nos enfants. La loi de l'Éternel. Et je me suis demandé, dans ma vie, quand j'ai des décisions à prendre, est-ce que je consulte la loi de l'Éternel? Ou si je consulte mes caprices? Mon agenda, mes goûts, mes opinions. Où est la loi de l'Éternel? Est-ce que je lis dans une poche arrière ou dans ma bouche? Maintenant, on va revenir au verset 2, où il est question de la consécration des premiers-nés. Parce que la consécration des premiers-nés connaît un développement très intéressant dans l'Écriture. « Consacre-moi tout premier-né, tant des hommes que des bêtes, tout est né chez les Israélites, il m'appartient. » Alors, dans un premier sens, le premier-né, c'est l'aîné. Les parents devaient le consacrer. Parfois, comme dans notre texte, il n'y avait qu'une présentation. Il n'y a pas grand consigne ici, mais éventuellement, il y avait un sacrifice de relier à cela, au fait d'offrir le premier-né. Bon, parfois, c'était aussi s'engager à ce qu'il soit au service de Dieu pour la vie, comme ce fut le cas pour Samuel. Et en consacrant leur premier-né, les parents affirmaient que tout appartenait à Dieu, même eux-mêmes. Tu consacreras ton fils premier-né et de même que le premier-né du bétail. Autrement dit, tout ce que tu as est concerné. Et quand on offre à Dieu la première partie de ce que nous possédons, on signifie à Dieu que le reste lui appartient. On le sait pour les offrandes, Dieu demande la première partie. Et quand on donne la première partie, c'est qu'on a l'intention, j'imagine, je pense, que le reste de nos offrandes, on veut glorifier Dieu aussi. On ne dépensera pas ça dans l'immoralité. Non, Seigneur, je te donne la première partie et dans le reste aussi, je veux te glorifier. C'est pas juste la première partie qui doit glorifier Dieu. Et la première partie est prise comme un échantillon du tout. On va tourner dans Exode 4, versets 22 et 23. Exode 4, verset 22. Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Le texte fait un lien direct ici entre le statut de premier-né d'Israël et les premiers-nés du Pharaon. Et quand Dieu a fait périr les premiers-nés égyptiens, c'est toute la nation. Il prend une partie pour le tout. C'est toute la nation qui est jugée. En faisant périr les premiers-nés égyptiens, le Seigneur dit aux Égyptiens, finalement, vous êtes tous morts. Vous allez tous périr. Le Seigneur indique aussi que, finalement, il n'y a pas que son peuple qui lui appartient, mais toutes les nations appartiennent à Dieu. Il a le droit d'en disposer comme il veut. Il n'y a personne qui pourra dire à Dieu, c'est ma vie, c'est pas ta vie, alors tu ne me touches pas. Il n'y a personne qui va pouvoir dire ça à Dieu. Un non-croyant, il vit comme s'il s'appartient, mais il ne s'appartient pas. Il appartient à Dieu. Toute la terre et tout ce qui la remplit, l'Écriture dit, ça appartient à Dieu. Un autre texte où je vous invite à tourner, Exode 19, verset 5, où Dieu établit son alliance avec la nation d'Israël. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Pourquoi est-ce que le Seigneur rajoute à la fin que toute la terre est à lui? D'abord, on voit ici que c'est une alliance conditionnelle à l'obéissance. Si vous gardez mon alliance, si vous écoutez ma voix, vous m'appartiendrez. Et Dieu rajoute, car toute la terre est à moi. Autrement dit, Dieu dit, j'ai le droit de disposer, j'ai le droit de choisir qui je veux. Et la mort des premiers-nés égyptiens signifiait cela. Dieu dit, j'ai le droit de juger ceux qui ne m'appartiennent pas, de les juger en fonction de leurs péchés. Je n'entrerai pas après-midi à savoir est-ce que des nouveaux-nés ont péché, est-ce qu'ils méritent la condamnation, ce n'est pas le sujet. Quand Dieu demande la consécration des premiers-nés, finalement, il est en train de dire au peuple, je veux votre consécration. Parce qu'on l'a vu dans Exode 4, c'est le peuple qui est appelé le premier-né. est comme premier-né. Israël est comme un échantillon du tout. Et on va voir à la Pentecôte les païens entrer. Et Israël, c'est le premier-né. Et les païens entrent pour former le tout du peuple de Dieu. Maintenant, la consécration des premiers-nés, c'était une disposition temporaire. Aujourd'hui, nous n'avons pas à faire cela. Les gens qui prennent un texte comme cela pour dire qu'il faut faire une présentation d'enfants, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et dans Nombre 8, versets 15 et 16, c'est marqué, « Après cela, les Lévites viendront faire le service de la tente de la rencontre. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu feras le geste de les dédier. » Car ils me sont entièrement consacrés du milieu des Israélites. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés de tous les aînés parmi les Israélites. La consécration des premiers-nés est remplacée par la consécration des Lévites. Donc, tout comme le premier-né était prêt à titre de représentant, bien, maintenant, Dieu prend une partie du peuple, soit les Lévites, pour dire, c'est vous qui allez être consacrés au service du temple et tout. Et pour le peuple, ce que le Lévite faisait, il le faisait en lieu et place du peuple. Donc, c'était, il le faisait au nom du peuple. Il le faisait à titre de représentant. La notion de premier-né ne s'arrête pas aux Lévites. Évidemment, qui accomplit cette notion de premier-né, c'est le Christ. Romains 8, 29, on peut tourner. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Quand les Écritures affirment que le Christ accomplit toutes les Écritures et que toutes les Écritures témoignent de lui, c'est vrai. J'ouvre une parenthèse sur l'importance, quand on lit un texte, par exemple, comme Exode 13, d'essayer de voir. C'est quoi le sens christologique? C'est important d'avoir le sens christologique de l'Écriture. Puisque toutes les Écritures témoignent du Christ, qu'est-ce que ça m'enseigne sur le Christ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui annonçait la venue du Christ? Parce que c'est là que ça prend tout son sens. Et je vous ai dit que le premier-né agissait à titre de représentant pour sa famille. Et c'est exactement ce que le Christ a fait. Il est mort pour son peuple, en lieu et place de son peuple. C'est la substitution. À la croix, le Christ n'a pas représenté tous les hommes. Sinon, ce n'est plus la substitution. S'il a vraiment pris leur place, ça veut dire qu'il n'y a aucun homme qui mourrait, puisque la mort aura déjà été fait en lieu et place de tous les hommes. Le Christ est mort pour son peuple. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est le premier-né d'un grand nombre de frères. Je ne sais pas si, dans Exode 13, si les familles se sont demandées pourquoi est-ce que Dieu donne une telle consigne. Et je pense qu'on peut voir qu'elle indique le besoin, l'homme a besoin d'avoir un représentant devant Dieu. Il ne peut pas assumer lui-même. Il a besoin d'un représentant. Il ne peut pas agir lui-même devant Dieu. Et Dieu nomme un représentant, et on est dans la période de l'ombre, on est sous l'Ancienne Alliance. C'était le premier-né, mais ça annonce que l'homme a besoin, finalement, l'homme a besoin d'un sauveur. Il ne peut pas se sortir lui-même. Il ne peut pas appartenir à Dieu à partir de ce qu'il est lui-même. Il a besoin d'un représentant. Et après ça, ce fut les Lévites et finalement le Christ. Et on voit que comme la notion de premier-né concernait pas juste l'enfant, mais toute la famille, eh bien, le Christ est le premier-né, mais finalement, ce qu'il a fait, ce qu'il est, il le communique à l'Église. Et c'est pourquoi dans Hébreux 12, versets 22 et 23, « Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés. » Nous pourrions traduire « de l'Église des premiers-nés ». C'est le mot « ecclésia » qui est là. « Inscrit dans les cieux, de Dieu juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. » Finalement, c'est tous les croyants qui, à cause de leur union au Christ, sont appelés premiers-nés. Ils sont consacrés. Le Christ, Dieu en consacrant son Fils, c'est l'Église qui le consacre. Et c'est là que la notion de premier-né prend tout son sens. Par la consécration de notre représentant, nous sommes consacrés. Je reviens au sens étymologique. Nous sommes faits saints avec le Christ. Nos vies appartiennent entièrement à Dieu. Et Paul nous exhorte à le reconnaître. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, les premiers-nés appartenaient à Dieu. Dieu a dit, ils vont m'appartenir. Et ici, Paul il dit, vous appartenez à Dieu. C'est notre statut. Et Paul nous exhorte aussi à pas juste le reconnaître comme un fait, mais est-ce qu'on le considère dans notre vie. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand Paul exhorte ici à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, on est dans le même langage que la Pâque, il fallait choisir un agneau sans défaut, etc. Et nous sommes rendus saints par le Christ et on doit s'offrir à Dieu comme ça, rechercher la sainteté. Et nous avons là toutes les raisons de bien célébrer la Pâque, c'est-à-dire de la célébrer avec tout son sens. La Pâque sans le Christ, c'est une viande de boucherie, c'est un agneau. C'est un agneau comme le peuple en a tué en Égypte. La Pâque sans le Christ, c'est rien. C'est dans le Christ que ça connaît son sens, tout son sens, son accomplissement. Tournons dans Éphésiens 5, versets 25 et 27. Éphésiens 5. Vous savez, nos traductions peuvent nous faire passer à côté de bijoux. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, on est ici dans un registre de sacerdoce. Il s'est livré. Hein? Il s'est offert. Afin de la sanctifier, on est encore dans le même langage, la consécration, sanctifier, c'est la même racine, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Et j'ai remarqué que la perle qu'on perdait dans nos traductions, c'est ce qui était traduit par « faire paraître ». Parce que ce qui est traduit par « faire paraître », c'est exactement le même mot grec qu'en Romains 12, où Paul dit « d'offrir en sacrifice ». Donc, « faire paraître », finalement, c'est l'Église qui est consacrée, qui est offerte à Dieu comme un sacrifice vivant. Et on retrouve le même langage que pour l'agneau, afin d'offrir devant lui cette Église, devant Dieu, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Encore le langage de l'agneau. Le développement théologique des premiers-nés, c'est que Dieu nous fait saints avec lui, nous rend purs et sans tache. Vous voyez comment on part d'Exode 13, un texte qui semble, bon, on passe vite par-dessus, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Quand on regarde le développement, c'est d'une richesse incroyable. C'est Dieu qui nous consacre par son Fils, par l'offrande de son Fils. Il nous sort du péché et il dit, « Je te fais saint pour moi. Je te rends sans défaut. » Il n'y a rien comme, je dirais, le 5 ou 6 janvier pour se rendre compte de notre incapacité à sortir de nos défauts. On prend des résolutions. Puis, si le 2 à 3 heures de l'après-midi, c'est encore tenu, c'est beau. La seule résolution que j'ai tenue, moi, c'est lorsque j'ai pris la résolution de ne plus prendre de résolution. Celle-là, je l'ai tenue. On n'est pas capable de se sortir de nos défauts, de nos problèmes. Le Christ le fait. Et un jour, je ne sais pas si on va se voir à ce moment-là, mais le Christ va nous présenter à Dieu comme un agneau. Le même langage. Sans défaut, sans tache, ni ride, ni vie glorieuse. Et ça doit être notre motivation actuelle pour dire, oui, Seigneur, c'est cette vie-là que je veux. J'aspire à une vie sainte et sans défaut. Et déjà, je recherche à vivre cette vie-là. Dans le combat, mais je veux vivre cette vie. Alors que le Seigneur nous donne de vivre la consécration qui est en Jésus-Christ. Amen.